Charles Nodier, le peintre de Salzbourg. Oui, tous les événements de la vie sont en rapport avec les forces de l'homme, puisque mon cœur ne s'est pas brisé. Je me demande encore si ce n'est point quelque mauvais songe qui m'est apporté ce blasphème, Eulalie épouse d'un autre, et je regarde autour de moi pour m'assurer si je veille. Et je suis désespéré quand je retrouve la nature dans le même ordre qu'auparavant. Il vaudrait mieux que ma raison se fût égarée. Et quelquefois aussi, je voudrais me reposer dans mon courage. Mais voici tout à coup cette nouvelle incroyable qui vient retentir à mon oreille et qui me ressaisit des angoisses de la mort. J'ai compté beaucoup d'infortunes, mais cette infortune est trop amère. Banni de la Bavière comme un misérable factieux, proscrit, fugitif, errant pendant 2 ans dans les rives du Danube aux montagnes de l'Écosse, on m'avait tout dérobé, la patrie et l'honneur. Eulalie me restait cependant. Ce souvenir ineffable enchantait ma misère et peuplait ma solitude. J'étais heureux par l'avenir et par elle. Hier encore, palpitant de désir, d'impatience, d'amour, je venais, je croyais. Et aujourd'hui, le 26 août, il y a une idée qui resserre mon cœur, une idée douloureuse et mortelle. Comment se fait-il que nos impressions les plus profondes soient quelque chose de si vague et de si incertain que la révolution de quelques mois, de quelques jours, qu'un instant presque indivisible les efface? Quelle est la nature de ce sentiment, si violent dans son ivresse, si rapide dans sa durée, qui aspire à embrasser l'univers et qu'une année dévore? Serait-il vrai que les affections de l'homme ne fussent qu'un sablier renversé, qui laisse échapper peu à peu tout ce qu'on lui donne à contenir? Et faudra-t-il que nous mourions partout où nous avons vécu, là même où l'on trouverait tant de douceur à s'immortaliser dans le cœur de ceux qui vous aiment? Oh, combien la Providence fut sage quand elle assigna une si courte carrière aux voyageurs de la vie. Si elle avait été plus prodigue de jour et que le temps eût amené plus lentement l'heure de notre destruction, quel homme aurait pu se flatter d'entraîner avec lui quelques souvenirs de sa jeunesse? Après avoir erré dans un cercle sans fin de sensations toujours nouvelles, il arriverait seul au monument. Et en jetant un regard éteint sur la scène obscure et confuse du passé, il chercherait inutilement une des émotions de son premier âge. Il aurait tout oublié, tout, jusqu'au premier baiser de sa bien-aimée, jusqu'aux cheveux blancs de son père. Mais si le vulgaire use ses jours dans ses misérables irrésolutions, il me semblait du moins qu'il était donné à certaines âmes d'éterniser leurs sentiments. Une fois, je crus l'avoir trouvé, cette âme voisine de mon âme. Je lui confiais mon bonheur. Qui pourra redire tout ce qu'elles ont eu de charme, ces heures d'ivresse où, penché sur le sein de la lie, respirant son haleine, attentif au moindre battement de son cœur, toutes mes facultés s'abîmaient dans un seul de ses regards. Et c'est pourtant celle-ci qui m'a trompé. Et lorsqu'en la pressant de tristes étreintes d'un long adieu, je lui demandais le titre d'époux, elle me le promettait devant le père de tout amour. Mais de quel droit me l'a-t-elle ravi? Pourquoi m'a-t-elle réduit à ce néant? Ils m'oubliaient donc tous, car je pense que si quelques voix amies avaient fait vibrer mon nom au milieu de la solennité parjure, mais il m'oubliait tous et personne ne lui disait « Tremblez, Eulalie, Dieu vous voit !» Il m'oubliait tous et cette trahison fut consommée le 28 août. Ce soir, je marchais au hasard et je ne sais comment cela s'est fait. J'ai senti un poids qui m'oppressait, un nuage qui troublait ma vue, un feu qui parcourait mon sang. Je me suis assis. Un instant après, j'ai levé les yeux et j'ai reconnu dans la maison qui m'était opposée la demeure de Lali. Sa chambre était éclairée. Lali est venue et s'est arrêtée derrière la fenêtre dans une contemplation silencieuse. Elle souffrait car elle a regardé le ciel. Sa poitrine paraissait gonflée, ses cheveux étaient épars. Elle a porté sa main sur son front. Il brûlait sans doute. Ensuite, elle s'est retirée sans m'avoir aperçu et j'ai vu son ombre s'agrandir sur la muraille et se confondre avec toutes les ombres. J'ai voulu parler, mais je n'ai point trouvé de voix. J'étais muet de saisissement, comme un voyageur de nuit qui a rencontré quelque apparition. Après cela, je me suis approché de cette fenêtre et je me suis plongé dans la lumière qui en descendait. Mais je n'ai pu supporter longtemps cette agitation. J'ai repris tristement ma route. Et quand je suis arrivé chez moi, mes jambes ont défailli. Je me suis laissé tomber contre terre et j'ai fondu en larmes. Le 29 août, tout conspire à m'accabler. En m'égarant dans ces campagnes, j'ai vu au-devant d'une jolie femme, une femme proprement vêtue. Et avant que j'eusse distingué ses traits, elle s'est jetée dans mes bras et a mouillé mes joues de pleurs. Et comme j'hésitais, « Vous ne me reconnaissez pas ?» a-t-elle dit. « C'est moi qui suis cette jeune fille que le désespoir avait poussée au suicide et que vous sauvâtes au péril de vos jours. C'est moi que vous avez comblé de tant de biens, que vous avez arraché à la misère, que vous avez rendu au bonheur. C'est à vous que je dois, et la vie dont je suis, et mon cher époux et mes enfants bien-aimés. Et je veux... » Elle voulait que je visse ses enfants. « Oh, cessez, lui ai-je dit, en pressant sa main contre mon cœur. Vous ne savez pas si je suis assez fort pour tout ceci. » « Et cette jeune dame, a-t-elle ajouté mystérieusement, que le ciel vous soit propice à tous deux, si belle et une âme si grande. Oh, de combien de joie ne doit-elle pas maintenant embellir votre existence ?» À ces mots, j'ai détourné mon visage en frissonnant d'indignation et de douleur. Et cette femme m'a cru. « Oui, tu es morte, perdue à jamais, » me suis-je écrié. Et je l'ai abandonné à l'erreur de ses regrets. De retour ici, j'ai appris que Lali était partie aujourd'hui pour la campagne. Partie, savait-elle? Oh, je partirai, je vais partir aussi. Et mille fois déjà, j'ai tourné le couteau contre mon sein. Et mille fois, j'ai demandé à Dieu la mort et le néant. Le néant. Car de revivre encore et de se rappeler que l'on a vécu, j'aimerais autant ne pas m'en aller. Mais je ne reviendrai peut-être pas comme je suis. Et le changement, et puis, d'ailleurs, il faudrait un peu de temps pour m'ajuster d'une autre manière. Ce sont là de grandes considérations. Le 2 septembre. La journée a été calme, le ciel pur et pacifique. Mais à l'instant où le soleil descend dans sa pompe occidentale, l'horizon s'est tout à coup enveloppé de nuages, comme d'une ceinture. Et peu à peu, de grandes ténèbres ont dévoré la lumière du crépuscule. Ainsi, ai-je dit, j'ai commencé dans une aurore douce et brillante. Et je vais finir, comme cette journée, dans le trouble d'un soir nébuleux. À cette idée, je me suis représenté avec beaucoup de force les sensations neuves et superbes du bel âge. J'ai recherché dans ma mémoire les jeunes désirs, les espérances naïves d'une âme vierge, et je me suis reversé dans ces souvenirs. Cependant, des éclairs fréquents parcouraient l'atmosphère et ouvraient dans les nuages déchirés d'éclatantes avenues et de vastes portiques de feu. La foudre glissait sous les voiles de la nuit comme une épée flamboyante, et à sa lueur passagère, on voyait quelquefois des ombres sinistres se balancer sur le vallon, semblables à ces esprits de vengeance qui sont envoyés sur les ailes de la tempête pour effrayer les enfants des hommes. Les vents frissonnaient dans les forêts ou grondaient dans les abîmes. Et leurs voix impétueuses se confondaient dans les profondeurs de la montagne avec les sons graves du tocsin, le tumulte de la cascade et le fracas des tonnerres. Et dans le silence même qui succédait, triste et terrible, à ces harmonies imposantes, on distinguait les bruits étranges et les concerts mystérieux comme ceux qui doivent s'élever dans les solennités du ciel. Dans ces bouleversements qui désolent la création, il y a un baume pour les plaies du cœur, parce que nos afflictions sont absorbées par des afflictions si augustes et que notre compassion est obligée à se répartir sur un monde. Tout à l'heure, par exemple, je m'identifiais avec cette nature souffrante et je l'embrassais tout entière de ma pitié. J'ai essayé de me maintenir dans cet état, mais depuis que je souffre seul, il a bien fallu que ma pitié réagisse sur moi-même. Le 3 septembre, j'avais souvent désiré de revoir ce monastère abandonné où j'ai recueilli jadis de touchantes inspirations dans le silence des cloîtres. Je me souvenais de m'être promené avec Eulalie parmi ces ruines confuses et ces bâtiments délabrés. Et en apercevant au sommet de la colline la longue flèche de l'église, hardiment élancée dans les airs, j'ai tressailli de joie comme à l'approche d'un ami. Seulement, j'ai observé non sans douleur qu'on avait réparé les brèches de la muraille et que les haies venaient d'être inondées. Le désastre des clôtures démolies et l'énergie d'une végétation libre et sauvage m'avaient imprimé des sensations d'une toute autre grandeur. Mais comme elles ont assiégé ma pensée, quand arrivé à l'antique vestibule, j'ai entendu le bruit de mes pas retentissant dans les échos des chapelles et du sanctuaire. Et comme les portes tremblantes criaient, en tournant difficilement sur leurs gonds, avec quel serrement de cœur et quelle volupté de larmes, j'ai traversé les corridors résonnants et les cours dévastés pour parvenir au pied du grand escalier de la terrasse. Là s'échappaient du milieu des manches marches rompues les cylindres veloutés du verbenum, les cloches bleues des campanules, des bouquets d'arabettes et des touffes d'éclairs dorés. La jusquiame y croissait aussi avec ses couleurs âtres et ses fleurs meurtries. Je me suis appuyé contre une colonne qui seule était restée debout, comme quelque noble orphelin d'une famille malheureuse. Et près de moi, il y avait encore un grand orme qui paraissait à peine au-dessus des vieux débris, mais dont le feu céleste avait déjà brûlé la cime. J'ai dit, « Mais pourquoi mon génie lui-même n'est-il plus qu'une ruine? Pourquoi la nature que je trouvais toute belle s'est-elle décolorée avant le temps ? Que n'ai-je encore ce pouvoir créateur, cette délicatesse exquise et cette fleur de sentiment qui inspirait mes premiers ouvrages ? Maintenant, mes crayons sont froids, mes toiles inanimées, et mon âme s'est éteinte dans les douleurs. Si quelquefois une idée forte et magnifique m'apparaît, je cherche en vain à la fixer. Bientôt, mon sang fermente et je ne la retrouve plus qu'à travers des teintes bizarres et des formes gigantesques, ou bien je me lasse de sentir, et alors elle se dégrade et pâlit sous mes pinceaux. C'est peut-être que l'image de la lyre repose avec trop d'empire devant ma mémoire, et que cela me distrait. Pendant ce temps-là, je me suis approché de l'ancien cimetière des moines, et j'ai vu une femme qui dessinait, assise sur une tombe. Elle a jeté les yeux sur moi, et quand les miens les ont rencontrés, j'ai été ébloui, comme si un météore avait passé contre ma vue, et je suis tombé sur mes genoux. Alors Eulalie, oui, c'était elle, Eulalie s'est avancée, a soulevé ma main tremblante et m'a adressé des paroles de consolation. Quand je suis revenu à moi et que j'ai pu me rendre compte de cet événement, quand j'ai réfléchi sur le hasard sinistre qui nous avait préparé ce rendez-vous sépulcral, Quand j'ai prévu ce que notre entretien devait avoir de pénible et quelles nouvelles impressions allaient tourmenter mon cœur, oh, je désirais qu'un abîme s'ouvrît sous mes pieds et nous ensevelît tous les deux. « Vous ici ?» ai-je dit enfin. « Ici, » a-t-elle répondu, « et c'est dans ces lieux pleins de vous, c'est au milieu de mes souvenirs heureux que j'ai voulu habiter, et cette pensée même fut-elle coupable aujourd'hui ?»« Coupable, » a-t-elle ajouté vivement, « oh, que le ciel ait pitié de nous !» Mais elle a prononcé ces mots avec un son de voix, un soupir et un regard qui n'était plus fait pour moi. Cependant, je me suis assis à ses côtés, en m'abandonnant à tous mes regrets. Je me suis répandu en imprécations contre la destinée et contre elle-même. Je lui ai rappelé le jour de mon bannissement, l'heure plus funeste de notre séparation, et les serments qu'elle a violés. Serments scellés par tant de baisers et de larmes. J'ai pleuré encore avec beaucoup d'amertume, et les sanglots qui me suffoquaient m'ont empêché de continuer. « Que la volonté de Dieu soit faite, » a repris Eulalie, « mais qu'il ne permette pas que vous me condamniez sans m'avoir entendu. Mais savez-vous ce que j'ai souffert? Marchez-vous près de moi quand j'épiais les dernières traces de votre passage, et que mon œil, troublé de pleurs, ne pouvait plus distinguer l'endroit d'où vous étiez parti? Avez-vous assisté à ces longues veilles que je passais à gémir en m'occupant de vous? M'avez-vous vu enfin, et pourquoi ne suis-je pas morte ce jour-là? Je croyais, j'espérais mourir, car je ne pensais pas que le faible cœur d'une femme pût contenir tant de douleurs. Dites, m'avez-vous vu, prête à expirer de désespoir à la nouvelle de votre mort? À ce mot qui me frappait pour la première fois, j'ai soupiré, tant la seule pensée que j'aurais pu mourir de la sorte, en emportant son amour et regretté par elle, m'offrait des charmes et m'inspirait des désirs. Elle a poursuivi ainsi. Monsieur Sprong arriva de Carinthie à Salzbourg. Il nous fut présenté. Je le vis, il plut à ma mère. Moi-même, oh, je ne sais, mais je lui trouvais, comme elle, quelque chose de votre air et de votre manière de sentir, et surtout cette empreinte de mélancolie, ce caractère touchant d'une âme qui nourrit des peines cachées, ce je ne sais quoi qui impose avant que nous ayons entrepris de le définir. Il avait d'ailleurs éprouvé de grands chagrins. L'intérêt qu'il m'inspira, il l'aurait obtenu de vous. N'est-il pas vrai qu'il y a une tendre pitié qu'on ne peut refuser au malheur? Et vous le savez, Charles, pendant votre absence, j'ai perdu ma mère. Quand elle vit s'avancer le moment fatal, elle nous appela autour d'elle, lui aussi. Et d'abord elle me regarda, et un nuage d'inquiétude sembla ternir l'éclat qui commençait à briller sur son visage. Ensuite, elle nous regarda tous deux ensemble. Elle engagea la main de Sprong dans la mienne, et l'expression d'une volonté irrésistible s'arrêta sur les lèvres mourantes. Puis elle passa si doucement de cette vie dans l'éternité qu'on aurait cru qu'elle sommeillait, si notre douleur n'avait pas témoigné qu'elle n'était plus. Voilà comment, déplorable héritage de l'infortune et de la mort, je suis devenue l'épouse d'un autre. C'est ainsi, oui, que j'ai trahi votre mémoire, pour obéir à la voix de la nature et du tombeau. Et ce que toutes les puissances du monde ne m'auraient pas contrainte à faire, c'est ainsi que le dernier regard de ma mère l'a obtenu. Ceci achevé, Eulalie s'est tournée vers moi avec une douce compassion. Charles, a-t-elle dit, nous voilà comme deux voyageurs du désert qui avaient rêvé du repos et de la patrie et qui reprennent parmi les sables un chemin laborieux. Tout s'est évanoui, mais armez-vous de courage et soyez sûr, ô Charles, que mon amitié vous suivra. » En prononçant ces mots, elle s'est échappée, disparaissant dans la faveur des ténèbres qui descendaient sur le monastère. Je me suis attaché à ses pas. Je voulais la retrouver et la voir une fois encore, mais le bruit que j'entendais, c'était celui du saule pleureur qui frémissait dans ses rameaux épars et dans sa chevelure mélancolique. Et tout à coup, j'ai répété ces mots. Son amitié me suivra. Et avec quelle douceur je les ai répétés jusqu'ici. Cette idée rassérénait mes sens, embaumait l'air, et jetait sur toute la nature un charme indéfinissable qui donnait de l'enchantement. J'ai été plus heureux, pourquoi pas? J'étais avide d'affection, et Dieu sait de quelle chimère je remplis quelquefois le néant de mon cœur. Le 4 septembre, son amitié. Mais jusqu'à quel point ce sentiment me suffit, voilà la question. Que peut-il y avoir de commun entre une société froide et austère qui n'a que des joies sérieuses et de plaisirs compassés, et cette union pleine d'ivresse et de volupté où deux êtres prédestinés à se chérir viennent confondre toute leur existence, entre cet aliment de quelques âmes appauvries et le feu pur et régénérateur qui dévore la vie et qui la reproduit? L'amitié. Et quoi? À l'enfant opiniâtre qui redemande l'objet qu'on veut lui soustraire, on jette quelques hochets pour amuser sa douleur. À 23 ans, je suis cruellement désabusé de toutes les choses de la terre, et je suis entré en un grand dédain du monde et de moi-même. Car j'ai vu qu'il n'y avait qu'affliction dans la nature, et que le corps de l'homme n'était qu'amertume. Il arrive, il jette sur ce qui l'entoure un regard inexpérimenté, et son immense affection embrasse avidement toutes les créatures. À lui seul, il croit pouvoir animer un autre univers, tandis qu'il marche, hélas, au milieu d'un monde mort, et qu'il prodigue inutilement ses journées fugitives et son amour inconsidéré. Bientôt, il observe, il apprend, il juge. Déjà son imagination s'éteint, ses illusions se flétrissent, sa sphère se rétrécit, toutes ses relations se resserrent autour de lui-même, jusqu'à l'instant où une expérience douloureuse brille à ses yeux comme une torche allumée sur des tombeaux et achève de l'éclairer sur son néant. Enfin, il ne trouve plus que des âmes sourdes et réfractaires. L'amitié l'oublie. L'amour le trahit, la société le rebute. Il sent que tous les liens vont se rompre. Ils se rompent en effet. Et heureux s'il cède lui-même à ce grand déchirement. Après cette époque, je ne vois plus que des égoïstes qui sont parvenus à dessécher leur cœur et des enthousiastes qui les puisent sur des chimères. Tournoyés dans un océan d'inquiétudes et de douleurs, et quand se délasse à peine de tant d'émotions violentes, quand les appréciations exagérées commencent à peine à se rectifier, voici venir la mort, célère et inattendue, qui vous étreint de ses bras inflexibles et qui vous endort tout entier dans le silence du tombeau. Le 6 septembre. Encore un douloureux souvenir. J'ai retrouvé ce soir, sur les bords de la rivière, l'angle d'un bastion à demi démoli, au pied duquel nous nous reposions de nos promenades dans les belles soirées de l'été. Le tapis de mousse où nous fûmes si souvent assis a conservé sa fraîcheur. La ruine menaçante qui le surmonte est encore debout. J'ai pensé quelquefois qu'elle pourrait nous ensevelir dans sa chute. Et maintenant, elle survit à l'amour immortel que Lali m'avait juré, à l'immortelle félicité que je m'étais promise. Là, peu de jours avant mon départ, en suivant des yeux le mouvement de l'onde, en me transportant par la pensée au milieu de ces mers lointaines où j'allais la suivre, pénétré de douleur à l'idée d'une séparation peut-être irréparable, je saisis la main de Lali et je l'inondai de larmes. Aussi troublée que moi, elle essaya de me distraire d'un sentiment trop pénible en chantant une de ces romances qui avait tant de fois charmé nos soirées. Oh, c'était, ou puis-je l'oublier jamais, Ah, il n'y avait pas un son de sa voix qui ne retentisse encore dans mon cœur. Que les répaulins, avec simplesse, coulaient leurs jours, et voyaient fleurir leur jeunesse et leurs amours. Rien ne pouvait en apparence les unir, le temps cher à leur espérance allait venir. Ils rêvaient qu'hymen et joie, loisirs heureux, qu'un dieu consolateur envoie aux amoureux. Mais de Paulin voici le père, il faut partir, et de l'amour de votre clerc vous départir. Il s'en alla vers sa future en grand émoi, déplorable mésaventure, c'est fait de moi, mon père veut que je le suive, et dès ce soir, mais jurons-nous, quoi qu'il arrive, de nous revoir. Si quelqu'un d'une amour coupable veut te lier, tu répondras, mais suis-je capable de l'oublier? Bientôt mon ami va me dire, réveillez-vous. C'est enfin l'heure de sourire à votre époux. Mais si l'un de nous, dans l'attente, est trépassé, que son âme reste constante au délaissé, qu'avec doux regard, doux visage et doux parler, elle vienne du noir rivage le consoler. Paulin partit, un cœur novice et si léger, un rien, un désir, un caprice le fait changer. Claire est bien loin, rose et jolie, un trait l'atteint, le temps fuit, le serment s'oublie, l'amour s'éteint. Claire, apprenant par renommée ses nouveaux feux, lui mande « Une autre bien-aimée obtient tes vœux. Celui qui m'occupe à toute heure n'a pu me trahir. Claire lui pardonne, le pleure et va mourir. D'abord, à de grandes alarmes, il se livra. Mais Rose, d'un air plein de charme, le rassura. Mais pourrais-tu croire à la nouvelle de ce trépas? On se lamente, on se querelle, mais on ne meurt pas. La joie est si vite ravie à nos désirs. Faut-il consumer notre vie en déplaisir? Viens à la fête qu'on dispose finir le jour, et tu recevras de ta rose merci d'amour. » Il vole au bal et fend la presse pour la chercher. Il lui semble que tout s'empresse à la cacher. Il croit l'entendre dans la foule au moindre bruit et voit son esprit qui s'écoule avec la nuit. Mais voilà bien de son amante le domino, son cou de lys, sa main charmante et son anneau. Rose, un heureux projet t'appelle, il t'en souvient. Tu me diras trop tôt, cruel, que le jour vient. Disparaissez, forme empruntée, masque envieux, il dit, éclair ensanglanté s'offre à ses yeux. Le bras armé d'un glaive humide, l'œil égaré, le teint meurtri, le sein livide et déchiré. Sans le délivrer de cette ombre, le jour à lui, elle promène un regard sombre autour de lui. Dès que ses sens, chargés de veille, vont s'assoupir, elle murmure à ses oreilles un long soupir. Mais quand sa peine fut comblée, il eut merci, et rendit son âme accablée d'un noir souci. Puisse comme lui tout parjure à son serment, subir de sa lâche imposture le châtiment. En me rappelant cela, je me suis surpris à répéter cette imprécation d'une voix haute avec l'accent de la colère, et je me suis enfui plein de terreur, car je craignais que le ciel ne m'eût entendu. Le 8 septembre. À quelques pas de Salzbourg, il y a un petit village, découpé d'une manière agreste et légère au revers de la montagne. Plusieurs ruisseaux, descendus de rochers, se réunissent au-dessous de l'enclos du presbytère et forment ensemble un canal qui se déroule au travers de la plaine, comme un large sillon d'argent, et va se perdre dans la rivière. Le murmure des petits flots, le magicissement éloigné des ondes, et le frissonnement des peupliers émus par le vent s'harmonient avec une douceur inexprimable et portent à l'âme je ne sais quelle langueur, quel trouble délicieux qu'on aime entretenir. Mais jamais ce tableau n'a eu un charme plus indicible qu'à l'heure où le ciel, orné des couleurs de l'aube, sourit à l'approche du jour, quand un brouillard humide et blanchâtre nage sur le vallon et que les premiers feux du soleil commencent à doser les plombs du clocher. Ce matin, je me promenais de ce côté en proie à des rêveries plus heureuses que d'habitude, quand les sons lugubres, distants et prolongés de l'airain mortuaire, sont venus me distraire de tous les songes du passé. Je me suis tourné vers la ville et j'ai vu, à l'angle du chemin, un convoi qui s'avançait avec lenteur en récitant des prières à voix basse. Quatre hommes, qui portaient une bière couverte d'un grand linceul, ouvraient ce funeste cortège. Près d'eux marchaient autant de jeunes filles vêtues de blanc, les cheveux épars, les yeux rouges de larmes, le sein haletant de soupirs. Et d'une main, elle soulevait les extrémités du drap funèbre. Ensuite venaient pêle-mêle des femmes, des enfants et des vieillards qui paraissaient tous pénétrés de douleur, mais d'une douleur muette et résignée. Ce qui m'a fait penser que l'être infortuné qu'on allait déposer dans sa dernière demeure n'y était point accompagné par ses parents, car les regrets de la nature ont un autre caractère. Ah, j'oubliais de dire que le linceul était blanc et qu'on y avait attaché une petite couronne de fleurs, semblable à celle dont on parle le front des vierges. Lorsque la foule a été écoulée, je me suis adressé à une femme presque octogénaire qui suivait d'un pas plus tardif à cause de son grand âge. Et je lui ai demandé le nom de la personne qu'on emportait dans cette bière. « Hélas, monsieur, m'a-t-elle reparti en sanglotant, vous n'avez pas manqué d'entendre parler de la bonne Cordélia. Si jeune encore, elle était déjà la mère des pauvres et l'édification des sages. C'est elle qui est morte hier. » Mais comme j'ai témoigné à cette bonne femme que le nom de Cordélia m'était inconnu, et que depuis quelques années j'étais étranger à Salzbourg, elle m'a raconté ce qui suit, pendant que je prenais son bras pour lui adoucir les fatigues du voyage. Cordélia était née d'une famille opulente, mais elle était si humble et si compatissante pour la misère qu'on ne s'était jamais aperçu de sa fortune qu'à ses libéralités. La mère de Cordélia se glorifiait de sa fille. Les pères la donnaient pour modèle à leurs enfants. Ses amis la nommaient avec orgueil. Les pauvres la bénissaient. Et l'envie elle-même se taisait quand on parlait d'elle. Car tout le monde l'aimait, tant elle était douce et bonne, la pauvre Cordélia. Oh, il faut bien que les anges en aient été jaloux pour que Dieu l'ait éprouvée à ce point. Il y a déjà longtemps que sa mère s'aperçut qu'elle dévorait un chagrin caché et qu'elle s'efforça de pénétrer le mystère de son cœur. « Mais qu'as-tu, ma Cordélia ?» lui disait-elle. Et Cordélia se penchait sur le sein de sa mère et gémissait. « Tu aimes ?» ajouta sa mère un jour. Cordélia ne répondit rien. C'est que c'était là son secret et qu'elle n'osait ni le taire, ni l'avouer. Cependant, elle n'avait point à rougir du choix qu'elle avait fait, car Guillaume est un digne garçon. Mais elle croyait qu'on ne voudrait point consentir à son mariage avec lui, parce que Guillaume était pauvre. Et voilà pourquoi elle dérobait la connaissance de son mal, quoiqu'il s'accrût tous les jours. Enfin, elle fut atteinte d'une maladie effrayante, et dans les accès de délire qui la saisissaient, elle prononçait souvent le nom de Guillaume. Quand la fièvre commençait à se calmer et que Cordélia reprenait ses sens, sa mère s'asseyait auprès d'elle et l'interrogeait de nouveau. Une fois, elle convint de tout parce qu'on lui apprit comment elle s'était trahie. ses parents se réunirent, et après avoir mûrement réfléchi, ils résolurent de la marier à Guillaume, puisqu'il lui avait donné son amour. On profita d'un de ces moments paisibles où Cordélia laissait quelque espoir de convalescence pour lui en apporter la nouvelle. Et comme on pensait que sa parfaite guérison pouvait dépendre de cette union tant désirée, on prit jour pour y précéder dans une chapelle voisine de la maison. C'était hier, à pareille heure que maintenant, et précisément comme elle venait d'atteindre sa 17e année. Elle se leva, s'habilla, se rendit à la chapelle, entre sa mère qui était toute consolée, et Guillaume qui ne se sentait pas de joie. Ses amis qui l'entourent encore marchaient à ses côtés. On disait en la voyant passer, « Veuillez Cordélia, elle est plus pâle, mais elle est au moins aussi belle. » En effet, son air était plein de noblesse, de grâce et de sérénité. Seulement, au pied de l'autel, elle prononça tout bas ces mots, en s'appuyant sur Guillaume, « Je me trouve mal !» On la ramena, mais le coup était porté, il avait détruit toutes les ressources de la vie. Quelques minutes après midi, son œil sembla se ternir et s'éteindre. Elle le fixa tendrement sur son mari et sur sa mère, soupira et sourit. Ensuite, elle détourna la tête et demeura immobile. Guillaume, effrayé, prit sa main. Elle était froide. Cordélia venait de mourir. Nous marchions déjà dans le village que Cordélia, pendant le cours de sa maladie, avait marqué pour le lieu de sa sépulture. Et je m'informais encore avec une triste curiosité de tous les détails de cet événement. J'aimais à entendre comment cette âme sensible et généreuse s'était fait connaître des malheureux pendant son trop rapide séjour sur la terre. Je plaignais Guillaume surtout, car de survivre à ce qu'on aime, que dis-je, il en mourra sans doute. Et cependant, nous arrivons devant l'église. La porte s'ouvre, le corps est déposé sur le seuil, et le prêtre, debout, les yeux levés au ciel, le front calme, les bras étendus, l'aspersoir à la main, laisse tomber quelques gouttes d'eau consacrées sur la prison étroite et mystérieuse qui renferme Cordélia. Ensuite, on introduit le cercueil, le convoi l'accompagne, silencieux, sous la nef antique, et se divise en deux rangs auprès des grilles du chœur. Le peuple se prosterne, et le sacrifice commence. Quel spectacle elle offrait à mes yeux, et de quelles idées elle venait assaillir mon cœur, cette pompe touchante que la religion a placée comme un point de repos entre le trépas et l'éternité. La sainteté du lieu, la grandeur des cérémonies, la mélodie imposante qui retentit dans l'enceinte sacrée, les vapeurs de l'encens qui se mêlent à la fumée des flambeaux funéraires, un prêtre auguste qui apporte au Tout-Puissant les prières de la multitude, une foule pieuse qui appelle les miséricordes inépuisables du Créateur sur le tombeau de la créature, Dieu lui-même descendu en victime expiatoire pour la rédemption des hommes et ramenant les fidèles au pied du trône de son Père. Et près de moi, dans cette bière, sous ces tristes livrées de la mort, une jeune fille qui avait à peine rêvé les embrassements d'un époux et qui échange si vite ses roses contre les cyprès, les délices de son printemps contre les secrets de l'avenir, son lit nuptial contre une fosse, une vierge qui n'était pas encore dépouillée de sa robe d'hymen et qu'ils vont jeter à jamais dans la terre humide et profonde à la merci de toutes les intempéries des saisons et de tous les ravages du temps. Cette innocente Cordélia, hier hélas si ravissante de perfection et de beauté, aujourd'hui un cadavre. Tandis que je livrais à ces réflexions, le cortège s'est porté au cimetière où il devait laisser Cordélia. et les regrets qu'elle inspirait ont éclaté avec plus d'amertume. C'est alors qu'on aurait pu penser que chacun pleurait en elle une fille ou une sœur chérie, dans l'idée de s'en séparer pour toujours et de perdre bientôt de vue le peu qui en restait, avait augmenté le développement de toutes les douleurs. Dans ce moment même, un étranger s'est approché. Et quel homme se devait être que celui-ci? Il paraissait toucher à l'âge mûr. Mais quelques grandes douleurs avaient déjà gravé sur son front les empreintes d'une vieillesse anticipée. Son regard doux et fier, tendre et cependant un peu sombre, commandait le respect, l'admiration et l'amour. Et je ne sais quoi de céleste et d'éblouissant flottait sur son visage avec une majesté incomparable. Il est venu à moi, il m'a interrogé d'une voix émue, et je lui ai répété en peu de mots ce que m'avait raconté de Cordélia et de sa mort. Mais quand j'en suis arrivé à la fin de ce récit, il a cessé de m'interroger et peut-être de me voir. Ses joues se sont enflammées, ses membres se sont raidis, tout son corps a tremblé d'une convulsion subite, il s'est précipité vers la fosse, y a attaché un regard avide, et quand on y a poussé le cercueil et que les ais ont crié en glissant le long des cordes, ses bras, qui cherchaient un appui, sont enlacés autour de moi. Oh, vous ne savez pas, s'écriait-il, vous ne saurez jamais ce que cette matinée me rappelle de tourments. Vous ne savez pas qu'autrefois j'ai vu mourir et tomber ainsi sur la terre, celle qui était à elle seule toute ma joie et tout mon amour. Ma sœur d'adoption, l'amie de ma jeunesse, l'épouse qu'on allait me donner. Et il a perdu connaissance. Dès que nos soins empressés ont eu ravivé son cœur, je l'ai entraîné loin de cette scène d'affliction. Et marchant à grande hâte du côté de la ville, nous nous sommes arrêtés qu'au détour de ce chemin où j'avais vu descendre le convoi. Et lorsque le village s'est caché derrière le pied des coteaux boisés, comme sous un rideau, là, nous nous sommes séparés. Mais avant de me quitter, en me pressant contre son sein avec une ferveur d'amitié dont j'étais tout enorgueilli, en me prodiguant des témoignages affectueux de reconnaissance pour une action si simple, il s'est nommé. Et cet inconnu vers qui mon cœur avait volé d'abord, c'est l'époux de Lali. Quand je me souviens après cela que Lali avait cru découvrir quelque rapport entre nous, et quand je le représente avec sa physionomie de demi-dieu, il me semble que c'est une faculté qui a été accordée aux âmes tendres en dédommagement de la vicissitude de nos affections que de pouvoir retrouver partout des images de celles qu'ils ont aimées. Le 9 septembre. C'est encore ici une marque de la faiblesse de notre esprit et de l'inutilité des efforts que nous employons à combattre nos penchants. Il m'est bien démontré que notre vie a été prévue et ordonnée avec toutes ses harmonies, que toutes les habitudes, toutes les relations que nous contractons dans le commerce du monde sont des conséquences nécessaires de notre organisation, et qu'il ne nous appartient ni d'expliquer ni de vaincre les sympathies dont nous nous trouvons quelquefois liés. Par quel autre ascendant que celui d'une fatalité toute puissante, ce ravisseur qui m'a dépossédé de mes plus chères espérances, serait-il venu me séduire et me subjuguer quand tout m'était odieux en lui et que j'aurais voulu pouvoir mettre au monde entre nous deux? N'est-il plus l'époux de Lali? Et Eulali, ne l'aimais-je plus? Qui empêchait cependant que je passasse ma vie entre eux? Idée si riche en délices que ma faible imagination s'en étonne. Qui empêchait que je fusse son époux comme lui, et qu'elle nous partageât sa tendresse? Une âme d'une sensibilité si vive et si tendre ne serait-elle pas facilement confondue dans son amour? Et fallait-il que le bonheur des autres ne s'enrichît que de mes pertes et de mes douleurs? Il faut avouer, c'est une condition bien digne de pitié que la mienne. Car tout maltraité du sort que soient la plupart des hommes, j'ai vu du moins qu'ils pouvaient se dédommager de la sévérité de leur fortune dans quelques sentiments consolants. Et moi seul, sur cette terre misérable, j'ai réuni toutes les misères de l'humanité, et tout ce qui les charme ou les soulage m'est cruellement interdit. Mes affections les plus douces deviennent des tourments insupportables, et sur mes lèvres, l'air même que je respire s'empoisonne depuis que Dieu m'a déshérité de sa providence. Le 10 septembre. Cependant, il en a aimé, il en aime, il en regrette une autre. Il ne sait point l'aimer comme je l'aimais. Il ne rapporte pas à elle seule tous ses souvenirs, toutes ses pensées, toute sa vie. Et sur le sein de la lit, il rêve un autre amour et une autre félicité. Mais désabuse-toi de ton bonheur, âme tendre et confiante. Cet époux ne l'était pas destiné. Ses transports, ses soupirs, ses larmes ne sont point pour toi. Ce n'est point toi qu'il désire, qu'il cherche à son réveil, mais celle que les précises de la nuit lui avaient montrée et qui enchantait son sommeil adultère. Infortuné, mais ce n'est point toi qu'il aime. Et de quel droit exigerait-il de toi l'affection qu'il ne peut plus te donner? N'est-il pas nul l'engagement qui a violé tous les engagements du cœur et qui a trahi la nature? Je pourrais donc... Oh, jamais, non. Cette idée a beau faire monter dans mon sein, jamais. Chimère, illusion de ténèbres. Que suis-je, hélas, un captif dont l'imagination s'est reposée un moment dans des songes voluptueux, qui croyait marcher sur des routes de verdure et sous des bocages de roses? Il ne s'occupait que d'espérances faciles et de pensées riantes, et qui se retrouve tout à coup autour de lui ses chaînes et son cachot. Quand je me vois ainsi séparé de tout bonheur par un océan sans rivage, quand je me sens froissé, anéanti par le désespoir, quand j'observe comment toutes mes facultés se dégradent et s'irritent tour à tour dans cet état de convulsion et de douleur, quand j'essaye de calculer jusqu'à quel point de légères modifications de circonstances ou de tempérament peuvent influer sur nos résolutions les plus graves, et que je réfléchis sur tant de misérables que le ciel a jetés avec une sensibilité brûlante au milieu des contraintes et des luttes de la vie, je m'étonne moins de compter un si grand nombre de réputations écrites avec du sang, et je m'indigne des jugements insensés de la foule. Interrogez ces fiers, ces aveugles dispensateurs de gloire et de châtiment. Ils ont tout apprécié, tout mesuré, tout prévu. Il n'est pas un crime, pas une pensée qui échappe à leurs lois, à leurs inquisitions, à leurs bourreaux. Et cependant, ils ne savent pas. Ils ne sauront jamais combien est faible, étroite, imperceptible la distance qui sépare un révolté de son empereur et le supplice d'un proscrit, de l'apothéose d'un demi-dieu.